putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
ah, je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut des papiers, ton permis, contre le volémi et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est
quoi?
C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Vas-y.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et du Canu Info du vendredi. De quoi on va vous parler ce soir? On commencera par une rubrique locale où on expliquera comment Gérard Collomb a été cahuté, ou plutôt chahuté, pendant ses vœux.
Et figurez-vous qu'après, il y aurait un mouvement de grève en France et du coup, on verra comment faire pour le faire durer.
Oui, c'est à peu près ça où on reviendra en histoire. Ouais. Sur comment dans l'histoire les grèves ont pu durer, puis ensuite on parlera de celles d'aujourd'hui un petit peu partout en France et des manifestations qui ont eu lieu.
Et on vous dira deux mots sur le comité de liaison contre les violences policières qui a publié en janvier, là, il y a quelques jours, son état des lieux de la répression des manifestations lyonnaises sur l'année 2019.
On passera ensuite à des questions nationales et on vous parlera de 3C, c'est-à-dire de contrôle continu et de blocage et de menaces de délation.
Avec ensuite un petit reportage de Radio Parleur.
C'est ça.
Ah ouais, sur des sans-logis qui sont logés où? Eh ben dans un ancien comico, bien ouais.
Voilà, et puis ensuite on enchaînera et on vous montrera qu'après avoir obtenu victoire, les travailleurs et travailleuses sans papier de Chronopost lèvent le camp. Et c'est Lebowski qui nous en parlera.
Et ensuite on vous donnera des nouvelles révélations sur l'affaire de Benalla.
Le Benalla Gate.
On finira sur la rubrique féministe en voyant des questions autour de la fin de la criminalisation de l'IVG en Nouvelle-Zélande.
Et alors moi je trouve que tu mens plus que Jérôme Cahuzac parce qu'on finira en vrai par l'agenda et par un ACAB.
Bonne écoute sur Radio Canu, il est 19h11.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer. Comment la masse du rassemblement pour le premier arrivé qui a eu lieu à l'école de l'Opéra de Lyon. Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et au local, il ne fait pas bon être Gérard Collomb. Pourquoi il ne fait pas bon être Gérard Collomb? Parce que Gérard Collomb a voulu présenter ses vœux lors de la cérémonie des vœux de David Kimmelfeld dans le 4e arrondissement. Seulement, il se peut que Gérard Collomb garde un très mauvais souvenir de ses derniers vœux. En effet, il a même dit à la descente de l'estrade que c'était scandaleux. Pourquoi est-ce si scandaleux? Eh bien, parce que Gérard Collomb, pas bête, ou si peut-être un petit peu bête finalement, va dans le 4e arrondissement. Et qu'est-ce qu'il y a dans le 4e arrondissement? Il y a le collège Maurice Sèvres. On se rappelle ce collège occupé par des migrants et des migrantes depuis bientôt un peu plus d'un an. Et du coup, eh ben, ces migrants et ces migrantes se sont invités à la cérémonie des vœux et ont, pendant le discours de Gérard Collomb, hurlé des slogans comme solidarité avec les migrants, comme Gérard Collomb. Je sais plus quoi, Gérard Collomb, ah voilà, Gérard Collomb, c'est trop long, on a soif. Surtout que Gérard Collomb, on a profité pour évoquer tout le travail qu'il a mis en place autour de l'Hôtel Dieu. Hôtel Dieu qui sera, on se rappelle, durant toutes les manifestations lyonnaises, en ce moment, prend un petit peu plein de petits œufs de peinture. Et du coup, bah voilà, au moment où Gérard Collomb a essayé de vendre sa politique à la fois économiquement dégueulasse et sa politique raciste migratoire, du coup, il y a un certain nombre de personnes qui étaient là pour lui dire que c'était n'importe nawak.
Ce que je veux,
c'est
que vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Rubrique Claire.
Vive la République, vive la France.
Les mouvements sociaux.
Votre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien et personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les...
Et pour commencer à parler mouvement et grève aujourd'hui, on a repris en partie un très bon article de Gaspard Dalens sur le site Reporter, article qui nous explique comment faire durer les grèves, ou plutôt qui revient sur les leçons de l'histoire en la matière. La grève contre le projet de réforme des retraites a marqué cette semaine un petit peu le pas, même si aujourd'hui il y avait du monde dans la manifestation, on vous en parlera dans quelques minutes, mais elle a marqué le pas quand même après plus de 40 jours, ce qui est déjà historique. Et ce fléchissement est peut-être et sans doute dû à l'étranglement financier de nombreux militants et militantes, malgré les caisses de grève. On l'a vu aujourd'hui et cette semaine, la grève a été suspendue quasiment complètement à la RATP, ou en tout cas sur une très grande majorité de lignes de métro qui ont vu à nouveau des métros circuler. À la SNCF aussi, le taux de grévistes a été bas cette semaine. Alors, comment expliquer ça? L'étranglement financier, on vient de le dire, l'absence de débouchés également, sans doute, face à un pouvoir qui ne fléchit en rien, les violences policières. Évidemment, on en a souvent parlé ici, et donc l'obstination du gouvernement, évidemment. Alors, une question taraude donc, comment subvenir aux besoins élémentaires et continuer à se nourrir et se chauffer et se loger sans salaire? Comment également payer les factures, puisqu'on le rappelle, quand on fait grève, on ne touche pas de salaire. Si la grève actuelle a entraîné un sursaut de solidarité avec la multiplication des caisses de soutien, elle a également révélé notre dépendance vis-à-vis du salariat dans une société de plus en plus urbaine et marchande. Coupé du monde rural et enchaîné au crédit, il est devenu très difficile de se libérer du travail et de s'émanciper. Sans salaire à la fin du mois, nous n'avons plus rien. Nous sommes dépossédés de nos moyens de subsistance et nous avons perdu toute forme d'autonomie matérielle, comme le dit une manifestante cette semaine. Dans un entretien avec Libération, l'historien Gérard Noiriel le reconnaît aussi. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'organiser des grèves longues. Les crédits à la consommation et l'accès à la propriété nous ont enfermés dans un modèle où nous vivons sous perfusion. Le mouvement social en est fragilisé et l'expérience d'une vie hors du rythme saccadé de l'usine ou de l'entreprise est rendue plus complexe. Il n'en a pas toujours été ainsi, nous dit Gaspard Dalens, qui a fait des recherches donc dans de bons manuels d'histoire pour montrer qu'il fut un temps où les ouvriers avaient les moyens de tenir la grève, grâce notamment à leur lien avec la campagne et avec les paysans. Leur enracinement leur offrait une meilleure capacité de résistance. Et les statistiques en témoignent. De 16 jours de grève jusqu'aux années 1930, de suite, hein, 16 jours de suite, la durée moyenne des grèves a chuté à 2,5 jours après la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre n'a pas cessé depuis de baisser. Stéphane Sirot, un autre historien, nous dit que les conflits sociaux dans le secteur privé sont désormais très courts et les grèves de plusieurs jours extrêmement rares. Elles ont laissé place à d'autres pratiques plus ponctuelles, comme la journée d'action et le débrayage, qui consistent à bloquer seulement quelques heures, voire quelques minutes la chaîne. Dans le livre « Construire l'autonomie », qui rassemble les articles de la revue Libertaire Offensive, les auteurs remarquent que ces dernières décennies, nos vies se sont encombrées d'objets. La croissance de nos besoins a entraîné une certaine forme d'aliénation. Nombre d'employés endettés ont déjà dépensé leur paye à peine virée sur leur compte. Crédit maison, crédit auto, crédit canapé, découvert bancaire, carte bleue, à débit différé. Qui aujourd'hui peut suspendre son activité salariée du jour au lendemain, se demande la revue. L'étau nous enserre. Le mode de vie petit bourgeois envahit nos imaginaires, estime l'historien Stéphane Sirot. Nous avons gagné en confort, mais perdu en conflictualité. Nous sommes plus fragiles et dépendants de la paye du patron. Au début du siècle, les ouvriers en lutte prenaient la clé des champs. La possession personnelle d'une parcelle de terre cultivable était alors une formidable caisse de grève. Elle fournissait de quoi vivre à celles et ceux qui n'avaient plus de gagne-pain. Elle permettait d'échapper à la menace du dénuement. Les ouvriers attendaient d'ailleurs l'été pour faire grève. Ils calquaient le temps de la grève à celui des récoltes, raconte l'historien François Jarige. Ils compensaient leur perte de salaire en surinvestissant davantage l'activité agricole. Cet enjeu avait été pris en compte par les ouvriers de l'époque. La souveraineté alimentaire était alors une arme capitale de la lutte, et c'est ce qu'affirmaient notamment les ouvriers de Longwy. Longwy, c'est où Longwy ?
En Bretagne.
Non, c'est où Longwy ? C'est en ?
C'est en Lorraine.
C'est en Lorraine, bien sûr. Et les ouvriers de Longwy en Lorraine avaient bien compris ceci, comme ceux de Monceau-les-Mines en 1901. Monceau-les-Mines, c'est en...
C'est où Monceau-les-Mines ?
C'est en Saône-et-Loire.
Merci.
C'est là où il y avait des mines, c'est à côté du Creusot, là où il y avait des activités de sidérurgie. La grève a duré plus de 4 mois là-bas. Pour tenir, il fallait fournir 20 000 repas chaque jour aux grévistes privés de revenus. Des équipes partaient s'approvisionner à la campagne, pas bête, d'autres négociaient des prix bas avec les commerçants et commerçantes. Des collecteurs de denrées allaient chez les agriculteurs avec une voiture à bras pour recueillir des dons. Et ainsi la grève pouvait durer des jours, des mois. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les usines étaient enchâssées dans le milieu rural. Quel beau mot! Et c'est l'historienne Mathilde Larère qui le donne, ce mot. La coupure entre les mondes ouvriers et paysans s'est opérée très lentement. Les bassins miniers se trouvaient également à la campagne. Avant que le métier ne se professionnalise et se transmette de père en fils, les mineurs étaient avant tout, au départ, des paysans. Ils compensaient le temps mort de l'activité agricole en allant chercher du charbon dans les entrailles de la terre. À l'inverse du salariat, donc, la polyactivité, être paysan, mais combler son revenu en ayant d'autres activités, mineurs ou dans une usine, apportait au petit peuple une plus grande liberté. Un reportage à Monceau-les-Mines en 1901, reportage effectué par André Bourgeois pour les Cahiers de la Quinzaine, relevait aussi que les mineurs en grève profitaient de quelques aisances. Ils possédaient la plupart leur maison et un jardin d'où ils tiraient légumes et fruits des lapins. Fruits et des lapins qui ne font pas de fruits, une douzaine de poules, 7 ou 8 canards, etc., etc. Ils pouvaient eux aussi tenir plus longtemps, sans paye. Un premier tournant a néanmoins eu lieu à la fin du 19e siècle. Le capitalisme industriel avait besoin de fixer sa main-d'œuvre. La polyactivité est donc devenue embêtante pour lui. Elle empêchait de développer des modes d'organisation rationalisés et elle permettait aux classes populaires de fuir l'usine. Il a donc fallu l'établir et briser des modes de vie autonomes pour mieux contrôler la population. Paradoxalement, ce mouvement s'est fait en lien avec les tenants du marxisme qui pensaient eux aussi, un petit peu comme les grands patrons, qu'une conscience de classe ouvrière était nécessaire à l'avènement du grand soir et donc qu'il valait mieux que les ouvriers vivent tous ensemble et qu'ils n'aient qu'un métier. Il a donc fallu l'établir et c'est ainsi que ces modes de vie autonomes ont été brisés. Pour ne pas être complètement dépendant du patron, ces ouvriers qui désormais vivaient le plus souvent dans les banlieues des villes et dans des bastions industriels, et pour continuer à pouvoir subvenir à leurs besoins en temps de grève, ont été inventés et sont apparus les soupes communistes. Des restaurants collectifs se montent alors dans les villages et les usines en grève. On distribue de la nourriture dans les bourses du travail. Et hasard étonnant, celle de Saint-Claude dans le Jura sert aussi aujourd'hui à une AMAP. À Paris, la fameuse coopérative La Bellevilloise aidait les soupes communistes à l'aide de la capitale en vendant les denrées à prix coûtant, c'est-à-dire au prix d'achat. Gérées par et pour les ouvriers, ces soupes dites communistes étaient l'inverse des soupes populaires organisées par l'Église ou l'État par souci de charité. Elles avaient pour but l'émancipation des travailleurs. Alors ces histoires font directement écho aujourd'hui à ce qui se vit à proximité de certains territoires en lutte, comme par exemple à Notre-Dame-des-Landes, où des opposants à l'aéroport utilisent désormais les terres de la ZAD pour fournir en légumes des piquets de grève et alimenter les combats en ville. On a également vu ces initiatives naître à Rennes, où des réseaux de ravitaillement ont également vu le jour. À Lyon aussi, on a vu quelques paniers distribués sur les piquets. Partout en France, des agriculteurs de la Confédération paysanne ont distribué aussi en décembre 2019 des paniers aux grévistes, une manière de faire revivre ces longues traditions de lutte. Et l'historien François Jarige termine dans ce papier donc de Gaspard Alain en disant « L'autonomie peut nous paraître lointaine et inaccessible, mais il faut imaginer que c'était le quotidien de milliers d'hommes et de femmes au début du XXe siècle. Le fait que ces batailles aient déjà existé doit nous inspirer. Il ne tient qu'à nous de faire réapparaître ces pratiques et de renouer avec l'autonomie. Nous devons reconnecter le mouvement social au milieu qui le nourrit. C'est à mon sens le défi de l'écologie politique. »
Et il se trouve que l'écologie politique se lie avec le politique ces jours-ci, puisqu'un mouvement social dure depuis plus de 45 jours en France. Et 45 jours de mouvement social, c'est pas facile à tenir. Au-delà de la question de l'argent, la question de comment on peut continuer à faire bloc, comment on peut continuer à faire masse et comment on peut continuer à avoir une implication et à pouvoir faire changer les choses au sein de ce mouvement. Du coup, on a voulu revenir sur la journée de mobilisation d'aujourd'hui, mais aussi plusieurs choses qui se sont passées cette semaine et qui pourraient donner des idées pour la semaine prochaine et pour montrer que, en fait, ça bouge encore en France.
Et donc, pour commencer, c'est pas loin d'ici, c'est en Isère. La CGT a frappé fort puisqu'elle a bloqué le plus puissant ensemble hydroélectrique français, qui est donc en Isère. Et la puissance installée représente 9% de la puissance du parc français. C'est en gros la consommation d'une ville de 740 000 habitants. La branche énergie de la CGT parle d'un blocage à durée indéterminée. Et du coup, le Havre aussi a été plongé dans le noir aujourd'hui, avec 16 000 foyers plongés dans le noir.
Et après l'Isère, on revient à Lyon, bien sûr. On va parler de quoi ? On va parler de mercredi déjà. Il y a eu une grosse manifestation d'enseignants et d'enseignantes et plus de 500 personnes qui ont défilé. On va y quoi ? Bien sûr, l'inspection académique après avoir jeté des manuels dans le rectorat. Et il y a eu des opérations aussi de boycott des épreuves anticipées du bac. On me dit dans l'oreillette que ça aurait même dansé la chenille dans le rectorat. Autre chose, mercredi,
ils ont même rentré dans l'inspection académique.
Ouais, mais oui. C'est, la chenille, je crois que c'est dans l'inspection académique.
Ah,
enfin bon, voilà.
Petit problème d'oreillette.
La chenille, on veut vraiment dire la vérité.
Ok. Et bah alors, ça c'est peut-être une info vraie. Pour cette fois, je vais pas faire que mentir. Les avocats et les avocates étaient aussi mobilisés mercredi. Et ils ont notamment organisé une sorte de grève du zèle en déposant plein de demandes de remise en liberté pour saturer les services de justice.
Et à Lyon, Villeurbanne, il y a eu plein de petites choses qui sont passées. Ce vendredi matin, vers 5h, des manifestants et manifestantes contre la réforme des retraites ont temporairement bloqué le dépôt des bus TCL à Villeurbanne, rue d'Alsace. Et ils et elles ont été évacués par la police peu avant 6h. En même temps, l'ENS a été bloqué par des étudiants de Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3. La 6 a été bloquée à Villefranche-sur-Saône toute la matinée et une opération péage gratuit a été mise en place entre 6h et 8h sur le Théo.
Alors, tu dirais que c'est le boulevard périphérique un peu au nord.
C'est ça, ce qui coûte méga cher d'ailleurs. Donc merci aux personnes qui ont fait cette opération péage gratuit. Et bien évidemment, il y avait 20 000 manifestants et manifestantes à la manif syndicale. Il y a eu quelques lacrymos à la fin face à l'Hôtel Dieu, protégé par la police. Mais ça s'est globalement très bien passé.
Et à Bourg-en-Bresse, eh ben, c'était pas 20 000, mais 2 000. Mais pour Bourg-en-Bresse, c'est pas si mal de personnes quand même à la manifestation aujourd'hui. Mais fait notable, une trentaine de manifestants et manifestantes avec des drapeaux de Sud Solidaire ainsi que des gilets jaunes s'en sont pris à la permanence de Michel Ruiz, candidat à LREM. Il et elle se sont introduits avec des fumigènes dans le local de campagne avant de scander des slogans anti-Macron.
Et puis à Grenoble, c'est plus de 3000 personnes qui étaient hier soir à la manif au Flambeau et 17 000 aujourd'hui pour la manif syndicale.
Et à Dijon, il y avait 3000 personnes aujourd'hui dans la manifestation syndicale avec encore de nombreuses personnes présentes alors que les flics ont essayé de déloger les personnes avec des lacrymos.
Et à Nantes, 2000 personnes étaient dans les rues hier soir pour la marche nocturne au Flambeau contre la caisse des retraites et le gouvernement. Jeunesse en tête, camions syndicaux, cortège familial et mélangé. Bonne ambiance. Des centaines de flammes éclairant les rues, des feux d'artifice, des slogans. Une manifestation puissante sur le plan esthétique. La BAC a tenté de terroriser les manifestants et manifestantes en balayant la foule avec des LBD dotés d'un laser vert à hauteur de tête avant de s'enfuir. Alors que la marche avait été plutôt sage, après un détour improvisé par la mairie, les CRS ont décidé de provoquer l'ensemble du cortège en le bloquant au niveau de la rue de Strasbourg. Huées, charges et pics de tension. Un manifestant tombé est tabassé au sol sans raison, puis récupéré après des échanges au corps à corps. Les matraqueurs ont dû rebourser chemin dans un nuage de gaz lacrymogène. Malgré cet épilogue, cette deuxième marche nocturne à Nantes a été tranquille et joyeuse tant que la police ne s'est montrée pas.
Et à Paris, difficile de dire ce qui s'est passé. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que la CGT revendique 400 000 personnes et qu'une manif sauvage a eu lieu dans la gare Saint-Lazare. A priori, quand même, grosse manif et des petits cortèges de partout dans toute la ville. Petite information rigolote ou pas, je sais pas. Blanquer, hier, devait présenter ses vœux. Blanquer, on se rappelle, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui devait présenter hier ses vœux à l'Opéra Comique. Et du coup, un appel à se retrouver dans le théâtre avait circulé et quelques centaines de personnes, essentiellement des enseignants et des enseignantes, avait répondu à l'appel et était rassemblée du coup devant l'Opéra Comique. Et du coup, Blanquer a dû faire ses vœux, via visioconférence. Et de la même façon, a priori, Paris commence à crouler sur les déchets grâce à la grève des éboueurs. Il y a du coup presque 150 tonnes de poubelles qui stagnent actuellement dans le 16e, en même temps que les fours des centres d'incinération de la région parisienne sont éteints et ne se rallumeront pas avant lundi au plus tôt.
Et là, c'est en région parisienne et c'est des activistes antispécistes qui ont détruit une tour de chasse et 4 zones d'agrainage. Les zones d'agrainage, c'est là où les chasseurs et chasseuses ont l'habitude de mettre à manger pour attirer les gibiers, pour qu'ils aient l'habitude de venir là. Et les tours de chasse, c'est là où les chasseurs se mettent en l'air pour mieux voir le gibier, pour leur tirer dessus. Et donc, du coup, tout ça a été détruit.
Et je suis un peu surpris par cet aparté. J'attendais une chute sur la réforme des retraites ou quoi. Et...
pas du tout.
Mais c'est très bien. À Limoges. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait l'air assez cool parce qu'il y a des gens. Ces gens, c'est qui? C'est des travailleurs et travailleuses, des chômeurs, chômeuses, des syndiqués de base, des non-syndiqués, des étudiants, étudiantes, des retraités, des gilets jaunes, des jeunes en révolte, des vieux fourneaux, etc., etc. Toute une agrégation de gens motivés qui sont allés filer un coup de main pour bloquer les transport, jamais une société spécialiste du transport et de la livraison frigorifique. Et apparemment c'était vachement bien, ultra bonne ambiance, et que c'était aussi l'occasion de choper plein de renseignements pour les camarades sur place sur le métier des gens qui taffaient chez jamais, et c'est aussi sur le fonctionnement des plateformes de distribution. Et puis le 24 janvier à 5h du matin, donc ce vendredi, il y a une trentaine de personnes qui se sont retrouvées pour bloquer une plateforme de la filiale logistique du groupe Casino.
À Saint-Étienne, 500 personnes étaient à la manif au Flambeau hier soir. Et ce matin, les enseignants et enseignantes ont déversé leurs manuels scolaires dans l'inspection académique avant de rejoindre la manifestation.
et à Angers. Il y avait, comme dans toutes les villes à peu près de France hier soir, une manifestation au flambeau à laquelle ont participé 850 personnes. Tout au long de la marche, quelques pétards et fumigènes s'ajoutent aux flammes et accompagnent les slogans anti-habituels, anti-Macron et anti-réforme. Un nouveau slogan qui serait né à Angers ou ailleurs, mais a priori c'est quelques jours. Louis XVI, Louis XVI, on t'a décapité, Macron, Macron, ça peut recommencer.
Et il y a eu encore des opérations Port-Mort cette semaine, notamment à Marseille, mais aussi au Havre, où cette opération a repris mercredi. Et au Havre, les opposants à la réforme des retraites ont investi le siège administratif du port du Havre mercredi. Et de l'intérieur, ils ont symboliquement allumé des lumières pour dessiner sur la façade les lettres CGT par les lumières allumées. Voilà, pour que ça forme CGT quand ils ont allumé les lumières, quoi. Vous avez compris. Voilà, merci.
C'était donc ça le lien avec les cabanes de chasse, les opérations Port-Mort.
Voilà, ouais. Maintenant t'as compris.
Merci.
Pas de problème.
Bah,
on a fini le tour de France.
C'était super.
Okay,
super.
Rien
super.
D'autre à dire.
Merci à vous.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Cochon.
Violence policière.
Canu Info.
La police nous dit, la police assassine. Les gens de drogue, nous sommes amis. La police nous dit.
Violence policière.
Et donc, on vous le disait dans le fil, le comité de liaison contre les violences policières de Lyon, qui observe et recense depuis l'intérieur des manifestations les actes de violence commis par la police, vient de publier son état des lieux de la répression des manifestations. Alors, ce comité de liaison, c'est qui ? Eh ben, c'est plein d'individus et aussi des collectifs, des structures, des assos, des syndicats. Voilà, alors il y a la liste, mais bon, je ne vais pas vous la lire, ça va être chiant. Ils sont dans l'attente encore de résultats d'enquêtes de terrain, mais ils ont déjà sorti en novembre 2019 un premier état des lieux sur la répression judiciaire des Gilets jaunes. Et donc là, ils ont publié le 21 janvier un second état des lieux. À travers l'analyse systématique de la presse locale, recoupée avec les observations de terrain et les premiers témoignages portés à la connaissance du comité. Cet état des lieux expose les techniques policières mises en place en 2019 pour réprimer le mouvement des Gilets jaunes et dont les cortèges font aussi les frais aujourd'hui. À Pau, le 15 janvier, le président de la République a timidement dénoncé certains comportements pas acceptables de la police, sans doute pour mieux faire oublier que ces comportements sont bien le résultat d'une politique menée intentionnellement pour anéantir toute contestation. À Lyon, dès la fin de l'année 2018, le dispositif de maintien de l'ordre a conduit à multiplier les troubles au lieu de les faire cesser. La préfecture a mis en œuvre dès le mois de décembre 2018 des techniques connues et dénoncées pour les risques de confrontation qu'elles occasionnent. Ainsi, les unités mobiles, telles que les BAC en civil, ont été déployées très tôt pour brutaliser les cortèges. On demande aux BAC d'avoir un impact physique, un peu comme un remplaçant du 15 de France qui entre en fin de match pour renforcer le pack. Ça, c'est un policier qui le dit. Le terrain est sanglant et les LBD ne cessent de faire des dégâts. Les blessés graves du 9 mars 2019 et celles et ceux qui en ont suivi en témoignent. La stratégie n'est pas nouvelle, mais elle s'est intensifiée avec les derniers mouvements sociaux. Concrètement, la préfecture a fait le choix de mettre les cortèges sous pression. Militarisation de la zone avec la sortie récurrente de l'hélicoptère, c'est une spécificité lyonnaise. Canalisation des manifestants et des manifestantes à coups de tir de lacrymo et de LBD. Parcours déclaré en préfecture interdit d'accès par la police, centre-ville barricadé, etc. Les récits des manifestations par la presse établissent que bien souvent les heurts ont jailli quand la police barrait l'accès à la presqu'île. Mais plutôt que de rectifier sa politique, la préfecture l'a très vite amplifiée. Ainsi, les unités mobiles sont renforcées, manifestation après manifestation, et la dispersion des cortèges est décidée de plus en plus tôt. Cette tactique a été maintenue pour la première manifestation intersyndicale du 5 décembre et répétée par la suite. La technique de la NAS, qui piège les manifestants et manifestantes et les met en danger, a été systématisée. Puis tout à coup, quand la police se fait plus discrète, les manifestations se déroulent plus sereinement. À l'opposé de son discours, la préfecture n'a donc cessé de générer l'insécurité des cortèges et des manifestants et manifestantes. D'un côté, les corps des manifestants, manifestantes, des soignantes, des médics et des médias sont exposés et l'intimidation marche à plein régime. De l'autre, les troupes sont multipliées, les interpellations aussi, ce qui permet à la préfecture de criminaliser le mouvement. Main dans la main, le préfet et le maire de Lyon ont tôt fait le choix de sanctuariser les commerces de la presqu'île. L'analyse montre pourtant que la police a fait bien plus de mal au commerce que les manifestations elles-mêmes. Au début du mouvement des Gilets jaunes, on a pu observer des lectures de textes ou des débats avec des passants et des passantes, rue de la République par exemple. Visiblement, cet usage politique d'un lieu dédié à la marchandise était insupportable pour les autorités. Au total, et peut-être parfois leur corps défendant, les policiers et gendarmes déployés ont été autant de petits soldats d'un gouvernement décidés à mater la foule plutôt que de modifier sa politique. Alors ça, c'est le texte qui présente du coup l'état des lieux fait par le comité de liaison. Et cet état des lieux, on peut le télécharger. Il fait quelques pages et on peut aussi trouver le premier qu'ils ont fait sur la répression judiciaire des Gilets jaunes.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Depuis le début de la semaine, les lycéens français et lycéennes françaises sont censés bûcher sur l'une des nouvelles dispositions de la réforme du baccalauréat, les épreuves communes de contrôle continu, appelées barbarement E3C. Mais c'était sans compter sur l'agacement de certains et certaines qui frappent le milieu des professeurs et de l'éducation nationale. Fortement mobilisés contre la réforme des retraites, les profs sont tout aussi peinés par la réforme du baccalauréat. Dans de nombreux établissements, des rumeurs de blocage, des épreuves ou de refus de corriger les copies bruissent depuis plusieurs jours. Rien de plus légal pour des travailleurs et travailleuses que de se mettre en grève pour bloquer la production. Ce n'est pourtant pas l'avis de M. Bernard Beignet. M. Bernard Beignet est le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, le grand chef de cette académie donc. Dans un courrier que le site Lundi Matin s'est procuré, ce haut fonctionnaire à qui le gouvernement vient d'offrir un 13e mois de 51 000 euros, tout comme tous les autres recteurs de France, hein, 51 000 euros le 13e mois, il s'adresse donc dans un courrier au chef d'établissement, un courrier qui a fuité donc, et dont on a retenu simplement quelques bribes. Si vous voulez l'ensemble du courrier, il est sur le site de Lundi Matin. Alors, Monsieur Bernard Beignet, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, nous dit « Un refus est au minimum un acte de grève. Mais un refus peut aussi engendrer une faute professionnelle, avec toutes les conséquences disciplinaires qui en découlent. Cela touche spécialement le refus de correction, ainsi que la falsification des notes. Je ne veux, c'est pas moi, hein, c'est Monsieur Bernard Beignet, je ne veux envisager que par pure hypothèse des actes comme la participation ou l'incitation au blocage ou à l'invasion d'un établissement. Dans de tels cas, l'on quitterait le code de l'éducation pour le code pénal. Ces principes dont certains semblent ignorer de divers enseignants entrés à... C'est toujours Bernard hein, qui parle. Ces principes dont certains semblent ignorer de divers enseignants entrés dans une logique de rébellion qui est la négation complète du statut de fonctionnaire. Si tu te rébelles, tu n'es plus fonctionnaire. Soyez attentifs, dit-il. Alors, il adresse ça, hein, je ne sais pas si vous avez bien compris, au chef d'établissement. Et il dit au chef d'établissement, au proviseur donc des lycées, soyez attentifs aux plus jeunes professeurs. Ils sont moins expérimentés et ils peuvent eux aussi être manipulés par d'autres plus âgés et qui, avec l'âge, peuvent perdre et la sagesse et le courage. Qu'ils ne se mettent pas dans des situations inextricables. Je sais aussi compter sur votre lucidité et votre détermination. Je mesure la charge qui est la vôtre, la fatigue et même la lassitude d'être remis en cause dans votre action de proviseur, action républicaine, par ceux qui sont d'abord votre équipe pédagogique. Voilà, donc si on résume, menace de sanctions disciplinaires pour les grévistes, menace pénale pour qui voudrait bloquer son établissement et appel à la délation des professeurs entrés, selon lui, dans une logique de rébellion. Et donc voilà, bilan de la semaine concernant les E3C, il y a une petite centaine d'établissements qui ont réussi à boycotter les épreuves avec l'aide évidemment des professeurs, mais aussi des élèves.
Et on écoute maintenant un reportage qui a été piqué à, je sais plus où.
Radio Parleur.
Ok, merci.
Et alors ça parle, ce reportage, je pense qu'ils vont le présenter, d'un ancien commissariat qui a été réquisitionné pour loger des sans-abri.
J'étais tous les soirs là à chercher où dormir parce que le 115, ça répond jamais. J'appelle, ça ne répond jamais. Ou sinon ils disent on n'a plus de place. Bah, du coup, je préfère être là avec mes enfants dans un lieu sûr que d'être dehors dans le froid ou... Surtout avec 3 enfants, c'est compliqué.
Radio Parleur, pour écouter les luttes, toutes les luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net.
Bon, on est ici dans cet immeuble occupé depuis le 1er janvier, qui appartient à une société immobilière et qui a été libéré en septembre par le commissariat, par la préfecture de police, et qui doit normalement être transformé en hôtel de luxe. Donc voilà, entre l'hôtel de police et l'hôtel de luxe, il y a l'hôtel du droit au logement. Maintenant, on marque notre détermination, d'une part pour que les familles soient relogées. Toutes les familles qui habitent là ou qui sont en train de s'installer ici, on va aller jusqu'à une quarantaine de familles, soient relogées, d'une part, et d'autre part, que, si possible, cet immeuble puisse être transformé en logements sociaux dans un arrondissement qui manque de logements sociaux cruellement. Il y a 6% de logements sociaux. Par ailleurs, un arrondissement qui est en proie au tourisme de masse, à la spéculation immobilière, des Airbnb, locations précaires à la journée, aux touristiques, qui se développent massivement et qui chassent les habitants. 25%, un quart des logements sont des logements inoccupés. C'est-à-dire la moitié de ces logements inoccupés sont des résidences secondaires, souvent d'ailleurs loués Airbnb, donc c'est la moitié inoccupée, et l'autre moitié, c'est des logements vacants, 12,5%. Voilà le contexte, quoi.
Moi, c'est Madame Kébir, et j'ai 3 enfants, je suis avec mon mari ici. On est à la rue. Je suis à gauche, à droite depuis 3 mois. Avant, j'étais chez ma mère. Et maintenant qu'il y a mes frères et sœurs, ma mère, elle a 68 ans. Elle fait de la tension et tout. Donc, c'est plus possible avec les enfants. Parce que j'ai le plus grand qui a 6 ans, 4 ans et 11 mois. Mais normalement, j'ai fait ma demande de logement social depuis 2015. J'ai le DALO, je suis prioritaire DALO depuis 2017. Et j'ai aucune proposition. Mes enfants, ils sont tout le temps malades. À force d'être dehors, il fait froid, vous savez. Donc, ils sont asthmatiques aussi. Et là, on est depuis le 1er janvier, c'est mieux que d'être dehors, en fait. Au début, c'était très froid, parce que les chauffages, ils marchaient pas. Les gens, ils ont commencé à amener des matelas pour nous aider, des couvertures. Donc là, ça va beaucoup mieux. Là, on est bien, on a beaucoup de soutien. Tous les jours, il y a des personnes qui viennent pour nous soutenir et ça nous encourage encore plus. Nous, on est au deuxième étage.
Okay. Mais combien d'étages ils sont occupés dans le...
Là, c'est arrivé jusqu'au quatrième, je crois, au cinquième.
Okay.
Là, il y a les toilettes. Ici, les toilettes sont occupées. Il y en a 2 pour les hommes et pour les femmes. Maintenant,
ça, c'était des anciens bureaux.
Voilà. Moi, j'ai une chambre juste ici. Voilà. Ça, c'est ma chambre, je dois ici avec les enfants.
Ok. Et vous dormez à 5 ici?
On nous a donné une autre chambre et pour le moment, on n'a pas de matelas et tout. D'accord. Donc, on s'entasse ici pour le moment. Okay. Et on a un matelas, sinon on met des petites couvertures pour dormir.
Ok.
Pour le moment, ouais. De quoi faire à manger, ça dépend. On fait des trucs, des œufs, ça dépend, mais pas. Il n'y a pas de chaude ici. Il n'y a pas de chaude, il n'y a que de l'eau froide. Donc des fois, on chauffe un peu d'eau pour faire juste au pied la redouche, mais c'est. Okay. C'est compliqué.
On est au 18 rue du Croissant, dans le 2e à Paris, à l'ancien commissariat du 2e arrondissement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un plan sur une manif. J'ai commencé à en parler, ils étaient pas trop pour. Parce que déjà, c'était un commissariat, et puis c'était un bâtiment racheté par Amundi. Et à Noël, j'ai des familles, je sais plus quoi leur dire quand je les reçois. Donc. Je suis venu avec, j'ai mon petite équipe, avec des adhérents bien motivés. Donc on est entre à quatre. Et on a commencé à se couper. Et en fait, nous qui pensions avoir été super discrets, on s'est aperçu, après, une fois qu'on l'a ouvert et tout, que tout le voisinage, ils avaient bien repéré des trucs. Ils avaient bien vu que ça commençait, il y avait des trucs dans le commissariat. Personne n'a rien dit. Donc le lendemain, on a attendu. Moi, j'ai pensé vraiment qu'on allait se faire... Voilà quoi. Et en fait, non, tout le monde est resté.
Vous avez une visite de la police rapidement ou...
Bah, une fois qu'on l'a inauguré, en fait. Quand on a mis les banderoles, une fois qu'il y avait les banderoles, tout.
Ça, c'était quand?
Ça, c'était le 1er janvier. Okay. Ou à 6h du matin. Du coup, j'avais fait une liste de... Voilà, où j'avais rencontré des gens et je leur avais parlé de ça, des familles. Les plus... les dernières, en fait. Comme la dame avec son bébé qui dormait à l'hôpital. Voilà, moi, c'est avec mon collègue, on l'a reçu. C'était obligé que j'emmène des gens vraiment dans l'urgence. Parce que c'est pour ça qu'il est là, ce truc-là.
Il y a combien de familles, là?
Là, actuellement, j'en ai fait rentrer, parce que c'est par mesure de sécurité, en fait. Voilà. J'en avais fait rentrer, au départ, 9 le premier matin.
9 personnes?
9 familles. 9 familles. Et après, j'ai fait rentrer un deuxième groupe, 2 jours après, qu'on a vu qu'il n'y avait pas de CRS qui venait, de choses comme ça, quoi. J'en ai fait rentrer encore une dizaine. Avec des hommes célibataires, des femmes célibataires. Parce que, ben voilà, ils sont en galère, quoi. Mais en plus, la plupart, ils travaillent.
Et donc, c'est que des gens qui ont des dossiers au DAL qui sont ici. Il n'y a pas. Si, par exemple, il y a une famille qui vient toquer à la porte et qui dit alors, je suis à la rue.
On leur fait faire des dossiers, directement. En fait, c'est pas. C'est surtout pour les mettre en règle administrativement. Parce que si ils sont là, ils sont obligés d'avoir des trucs en règle pour obtenir un logement, en fait. Donc c'est la demande HLM tout de suite, c'est le DALO dans la journée. Enfin, on essaye que le truc administratif, il aille super vite, pour que quand on va pouvoir négocier, si on reste là et ça fonctionne, eh ben on puisse les mettre dans les listes, en fait. Le but, c'est pas de rester dans le bâtiment et d'y vivre. Alors tant mieux si après, parce qu'on a soutien du maire, et tant mieux s'ils veulent se transformer en logement social, tant mieux, c'est quelque chose en plus de gagner. Mais le but, c'est quand même que tous ces gens qui sont d'Allo depuis je sais pas combien d'années, donc prioritaires, qui vivent au 115, dans des chambres pourries, qu'on déménage toutes les semaines, des fois qu'ils sont même à la rue, parce que le 115, des fois, il arrête les hébergements du jour au lendemain, et hop, il y a une période où bah, les gens ils doivent se démerder. Hein, voilà, quoi. Donc quelque part, là, la dame avec son bébé... Elle est contente de plus dormir dans les halls d'hôpitaux, quoi.
Alors, là, si la crise du logement, c'est quoi en France? La crise du logement, c'est les prix de l'immobilier qui ont explosé, des records battus chaque année de transactions. L'État gagne 70 milliards d'euros sur le logement, entre les droits de mutation, les impôts, les charges sociales sur le BTP, tout ça. Et donc, il en dépense 40 milliards pour le logement. Et il va en dépenser de moins en moins, il va baisser les APL. Il dit, ah ouais, les APL, ça coûte trop cher, on fout l'argent par les fenêtres et tout. Bah ouais, ils vont surtout foutre les gens par les fenêtres. C'est ça qui est en train de se passer. Quand on fout la moitié, plus de la moitié de ses revenus dans le loyer, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. On se retrouve à la situation qu'on connaissait au 19e siècle. Et faut aller à la source de la crise du logement, qui est la spéculation. Le profit tiré de l'argent, du foncier, spéculation foncière immobilière. Ça, il faut maintenant agir là-dessus.
Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez.
Contactez-nous sur radioparleur.net.
Et en attendant, ici, entièrement. Yes. On lâchera pas. Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut?
Logement.
Et pour qui?
Pour tous.
Et pour qui?
Pour tous.
Et pour quand?
Tout de suite.
Et pour quand?
Tout de suite. Voilà.
Et une autre victoire dans un petit peu le même domaine, parce que les travailleurs sans papier de Chronopost qui occupaient le Chronopost, enfin, qui était en train qui a mis en place un campement devant le Chronopost d'Alfortville dans le Val-de-Marne, et ben ont obtenu gain de cause. Les 26 personnes qui réclamaient leur régularisation depuis des mois via une grève de longue haleine ont en effet obtenu d'être régularisées. C'est depuis le mois de juin 2019 que ces 26 personnes font le campement devant le centre de tri qui est aussi leur employeur pour dénoncer un système de sous-traitance en cascade qui les exploite et les maintient dans une précarité invisible ainsi que dans des conditions de travail très pénibles. Dès le 4 décembre, 5 premiers travailleurs avaient obtenu leur régularisation avec autorisation de travail et les autres ont été régularisés petit à petit. Les grévistes ont donc décidé d'évacuer leur campement jeudi 16 janvier. Mais la lutte continue parce que durant leurs longs mois de piquet de grève, les travailleurs de Chronopost ont été rejoints par des membres par des sans-papiers de Vitry-sur-Seine, ville voisine d'Alfortville, et d'autres personnes de la région. C'est donc au total 129 personnes qui ont déposé un recours collectif et qui attendent toujours leur régularisation. Ces travailleurs, du coup, travaillent pour Chronopost avec des contrats de travail qui ne sont pas à leur nom. Pour les signer, ils utilisaient des prête-noms, des proches à elles et eux qui étaient en situation régulière, ce qui leur permettait de travailler, mais du coup, les empêchait ensuite de prétendre à une régularisation. On les félicite donc pour leur lutte qui a tenu le coup et qui leur a permis de gagner.
Bravo à elles, bravo à eux. Et maintenant, c'est le Benalla Gate, grâce à Mediapart. Et la nouvelle histoire cette semaine, c'est une opération de nettoyage au sommet de l'État. Un témoin clé de l'affaire Benalla a impliqué mardi 21 janvier, lors d'une audition devant la brigade criminelle, plusieurs membres de la présidence de la République dans la disparition de deux coffres-forts, dont un de ces coffres-forts à l'Élysée quand même, ces coffres-forts contenant des documents, je cite, « sensibles ». Le nouveau témoin clé s'appelle Chokri Vakrim, c'est lui qui a été auditionné mardi. C'est un militaire de carrière qui a fréquenté Alexandre Benalla à l'été 2018. Il a été entendu mardi pendant quand même près de 12 heures par les enquêteurs chargés d'élucider l'un des plus épais mystères de cette histoire. À tiroir, la disparition des coffres-forts de Benalla conservés à son domicile d'Issy-les-Moulineaux, disparition qui a eu lieu au lendemain des révélations du Monde, révélation du 18 juillet, sur les violences de la contre-escarpe. Rappelez-vous, c'est quand Benalla s'est fait passer pour un flic pour taper sur des manifestants. Devant les flics, donc, Chokri Vakrim a indiqué qu'il avait personnellement vu dans la soirée du 19 juillet 2018, deux proches d'Emmanuel Macron, en présence du coffre-fort de Benalla, dans l'appartement parisien de Pascal Pérez, nouvel individu. Cette femme est une femme d'affaires qui opère sur plusieurs continents. Les deux membres de l'Élysée, piliers historiques de la campagne présidentielle de Macron en 2017, sont, je cite, Ludovic Chacœur, conseiller du chef d'état-major particulier du président, et l'ex-gendarme Christian Guédon, membre du groupe de sécurité de la présidence de la République. Ce dernier, qui a eu son poste à l'Élysée grâce à Benalla, est l'épaule du président de la République, soit le garde du corps le plus proche du chef de l'État, avec qui d'ailleurs il boxe dans les sous-sols du palais de l'Élysée. Méfiez-vous des boxeurs. Christian Guédon est en outre spécialiste dans, et c'est là que ça devient intéressant, les domaines de l'effraction et de l'infiltration, ainsi que des techniques d'ouverture discrète des serrures de bâtiments et véhicules. Et tout ceci à des fins judiciaires, bien sûr. C'est lui qui le dit sur son petit CV. Chokri Vakrim a également expliqué sur son procès-verbal avoir assisté à une conversation d'Alexandre Benalla durant laquelle ce dernier aurait demandé dans les jours suivants au même Christian Guédon de vider dans la plus grande discrétion le contenu d'un second coffre installé dans son bureau de l'Élysée juste avant une perquisition de la police. Selon son témoignage, Le contenu du coffre aurait été emporté dans un sac de sport qu'il a vu au domicile de Pascal Pérez. Pascal Pérez qui avait prêté son domicile à Alexandre Benalla pour qu'il ne soit pas assailli par les journalistes au moment où éclatait l'affaire Benalla. Alexandre Benalla lui aurait alors indiqué qu'il s'agissait de données sensibles sur la campagne électorale ainsi que sur le président et son épouse, notamment des relevés bancaires. Prudent Chokri Vakrim a toutefois précisé aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu ces papiers. Voilà. Alors, interrogé dès le 21 juillet sur la disparition de cette armoire forte, Benalla a indiqué aux policiers, non sans provocation, « Elle a dû être emmenée dans un lieu sûr par une personne, mais ce n'est pas moi qui me suis occupé de cela. » Le chargé de mission de Macron, Benalla, a expliqué qu'il avait voulu déplacer le coffre qui contenait des armes. Problème, la taille du coffre, seulement 60 cm de hauteur, ne permettait pas d'abriter certaines armes restituées plus tard à Alexandre Benalla. Cela pose donc une question centrale. Que cachait le coffre de Benalla de si sensible pour que l'Élysée s'implique dans son déplacement? Réponse, des pépitos, une photo de Bernard Arnault ou des documents compromettants sur les frais de campagne de Macron. On attend que Mediapart nous réponde la semaine prochaine.
Il est invisible, il est disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Il est invisible, il est disponible, libre et irréductible.
Attitude féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu info du vendredi. Et donc, dans la rubrique féministe, on va en Nouvelle-Zélande. Et même si la Nouvelle-Zélande a été le premier État à avoir accordé le droit de vote aux femmes en 1893, y avorter demeure encore aujourd'hui considéré comme un crime. Et donc, c'est en voie de changer puisque la première ministre Jacinda Ardern s'est emparée du sujet et porte un projet de réforme introduit au Parlement le 5 août 2019. Alors en attendant, la loi sur l'IVG est encadrée par la loi sur les crimes et les femmes qui souhaitent mettre un terme à leur grossesse continuent de se soumettre à un long processus nécessitant entre autres que deux médecins différents attestent que leur santé physique ou mentale se trouverait en danger en l'absence d'IVG. Ce qui complique, on l'imagine, drastiquement la procédure et il s'écoule en moyenne 25 jours entre la demande de la patiente et sa mise en pratique. Alors, cette proposition, elle a été adoptée à 94 voix contre 23 en première lecture le 8 août. Le texte vise à retirer l'avortement de la loi sur les crimes et à permettre aux femmes d'avorter jusqu'à 20 semaines. Sans avis médical. Au-delà de ce délai, un ou une praticienne devra attester du danger que la poursuite de la grossesse représente pour la santé physique et mentale de la patiente. Au Parlement, le projet de loi doit encore être soumis à deux autres lectures avant qu'il ne puisse entrer en vigueur. La réforme devrait en tout cas drastiquement réduire les délais entre la demande et la réalisation de l'interruption de grossesse. À suivre donc pour les futurs épisodes en Nouvelle-Zélande.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu info du vendredi.
Eh ben, ACAB, aujourd'hui, dans le Canu Info du vendredi, ça veut dire les abris de chasse, c'est pour attaquer Benalla.